Voici, mes amis, il y a dans la Bible des personnages importants. David, Abraham, Moïse, et même dans le Nouveau Testament, des personnages emblématiques, Pierre, bien sûr, Paul, Jean ou d'autres encore. Et il y a aussi des personnages qui passent totalement inaperçus, comme Matthias. Savez-vous qui il est ? Matthias est nommé juste dans quelques versets, dans le début des Actes des Apôtres, puisque c'est lui qui sera choisi pour remplacer le poste vacant de Judas, qui était l'un des 12 apôtres. Il est nommé là et ensuite il disparaît totalement, on n'en entend plus jamais parler. Alors cet épisode de l'élection de Matthias, du choix de Matthias comme l'un des apôtres, m'intéresse puisque ça tombe bien, nous sommes justement aujourd'hui dans une journée d'élection de conseils presbytéraux et de diacres, et donc comment la Bible nous invite-t-elle à choisir nos collaborateurs ? Et puis d'autre part, ce récit se place précisément entre Pâques et la Pentecôte, c'est en ce moment, donc tout est bien. Et donc, que nous enseigne l'Écriture ? J'ai longuement hésité avant de prendre ce texte parce que, pour tout vous dire, je le trouve quand même très curieux, pour plusieurs raisons. D'abord, cette histoire de tirage au sort. Bon, pourquoi pas, on peut toujours tirer au sort les collaborateurs, mais c'est quand même un procédé d'embauche assez curieux. Et en tout cas, nous, on ne fait pas comme ça. Et d'ailleurs, personnellement, je ne crois pas que Dieu influence les tirages au sort. Voilà. Par exemple, si je vous dis, est-ce que, bon, vous le savez, dans 6 ans, Dieu voulant, je prendrai ma retraite, est-ce que Dieu veut que je reste encore 6 ans ou que je m'en aille cette année ? Ah ben, tirons au sort, voilà. Pile, je reste. Eh ben, s'efface. Je m'en vais. Ah ben non, attendez, je vais réessayer quand même, on ne sait jamais, peut-être que Dieu... Ah pile, c'est bon, je reste. Ça va pas cette histoire, vous êtes d'accord ? Ça colle absolument pas. Est-ce que cette idée que Dieu serait dans les tirages au sort, ça ne va pas. Enfin, personne ne peut croire ça. Alors c'est vrai que c'était l'usage dans l'Ancien Testament, c'était un processus qui existait. Mais en fait, c'est totalement absurde. Théologiquement, c'est faux. Voilà. Et d'ailleurs, un peu plus loin, quand les disciples choisissent des diacres, ils vont... Ça va être un peu la même chose, ils vont essayer de trouver des gens qui ont toutes les qualités requises, ils vont prier, imposer les mains, mais il n'y aura plus de tirage au sort, donc ils vont abandonner cette pratique. C'est le seul endroit dans tout le Nouveau Testament où on fasse de cette façon-là. Et donc, est-ce que cette nomination est une naïveté de la part des premiers disciples qui croyaient des choses comme ça, ou est-ce que le texte est plus malin que ça ? Je me méfie toujours avant de traiter les gens de naïfs, surtout les personnages de la Bible. Mais en fait, si on regarde bien, il ne s'agissait pas juste d'un tirage au sort. Parce que, avant de tirer au sort, ils commencent par imposer des critères extrêmement précis. Ils disent, pour trouver un apôtre, il faut que ce soit quelqu'un qui ait suivi Jésus depuis son baptême jusqu'à l'ascension, qui soit juste, qui soit plein de qualités requises, qui soit témoin de la résurrection. Et puis finalement, on en présente 2 et ils savent pas très bien comment choisir entre les 2, entre Matthias et Barsabbas nommé Justus. Et donc, ils ne savent pas et finalement, comme ils savent pas choisir, eh bien, ils choisissent au sort entre les 2 qui étaient équivalents en valeur. Donc, en tout cas, c'est pas le tirage au sort qui désigne entièrement la personne. C'est juste qu'ils savaient pas choisir et après tout, pourquoi l'un plutôt que l'autre? Si on n'a pas de raison de choisir, autant tirer au sort, pourquoi pas? Mais si on regarde bien le processus dans le livre des Actes au chapitre 1, en fait, c'est très démocratique. Il est vrai que Pierre prend l'initiative. On dit Pierre se leva et il dit, écoutez, il faut qu'on remplace Judas. Donc, Pierre prend l'initiative, c'est la première fois dans le livre des Actes que Pierre aura cette importance dans l'Église primitive, mais à aucun moment c'est Pierre qui décide quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est pas Pierre qui va présenter les candidats et ça n'est pas Pierre qui va choisir entre les 2 candidats retenus en fin de compte. Et donc c'est à la fois pour et contre l'autorité de Pierre, pour parce que il se présente en leader, mais contre parce que Pierre ne présente aucune décision personnelle. Et donc c'est totalement démocratique. D'ailleurs, on dit il faut trouver des gens qui aient suivi Jésus, et il est écrit « ils en présentèrent deux ». Donc c'est l'assemblée des 120 frères qui sont là, 120 personnes qui sont là, et dans cette assemblée, a priori, tout le monde pouvait avoir la dignité d'être apôtre. Et c'est cette espèce d'assemblée générale qui fait sortir ces deux candidats, Barsabas et Matthias. Et donc c'est vraiment la démocratie, comme chez nous, tous ont leur mot à dire, et l'assemblée en présente deux. Après, pour finaliser, il tire au sort, pourquoi pas, mais en tout cas c'est pour dire que ça n'est pas Pierre qui décide, et ça n'est même personne qui décide. On en a deux, personne ne prend l'ascendant sur les autres pour imposer sa décision aux autres. Alors peut-être que c'est justement pour dire, cette histoire de tirage au sort, enfin je le comprends comme ça, pour dire qu'il n'avait pas de raison objective de choisir l'un plutôt que l'autre. Et que justement, personne n'était habilité à juger qui était le plus digne de ces choses-là. Alors ils vont dire, on le fait au hasard, pourquoi pas? Et dire qu'ils associent Dieu à ce hasard, alors attendez, là c'est un peu tordu, mais à mon avis bougrement intelligent, dire qu'ils associent Dieu à ce hasard, c'est dire cette décision arbitraire qui aurait pu être autre, nous voulons dire, lui donner tout le poids de Dieu là-dedans, donner du poids et dire nous allons faire comme si c'est Dieu qui choisissait. C'est-à-dire qu'on ne le remette pas en cause, si vous voulez. Et ça me semble important parce que souvent dans notre vie, nous sommes amenés à faire des choix. Et il arrive que nous choisissons un peu, pas tout à fait à pile ou face, mais on ne sait pas trop quand même en fait. Choisir ça ou choisir ça, Et finalement, on dit bon ok, je choisis la solution A. J'aurais pu choisir la B. Ce que m'enseigne cette histoire de tirage au sort, c'est que si vous avez choisi A, à partir du moment où vous avez choisi, faites comme si c'est Dieu qui le voulait. Arrêtez de vous poser la question en disant « Ah, j'aurais peut-être dû choisir B ». Vous avez choisi A, allez-y. Et faites en sorte que cette solution soit finalement la bonne. Vous voyez? Parce que, en fait, je ne crois pas que les chemins soient prédestinés à l'avance et que si j'ai choisi telle voie, ça me bloque toutes les autres. Il y a plein de ramifications. Aujourd'hui, une solution, même mauvaise au départ, peut s'avérer bonne et inversement, tout est très compliqué. Et donc, par conséquent, l'idée de dire, je tire au sort et je dis, c'est Dieu qui choisit, ça veut dire, je m'en remets à quelque chose qui me dépasse et je ne prétends pas, moi, être maître de tout et je veux dire que ce qui a été choisi, qui aurait pu être autre chose, je déclare que, à partir de maintenant, c'était la bonne solution. C'est pas la peine de regretter, il faut juste faire en sorte que la solution qui a été choisie devienne la bonne. Et donc, il y a, je vous ai dit, c'est une nomination remarquablement démocratique, avec simplement une insistance sur un point que l'on retrouve dans la nomination des diacres un peu plus loin, en acte 4, je crois. C'est chaque fois, ils disent qu'ils prient. En prière, il prie. Et donc voilà, dans cette dimension démocratique qui est celle de notre Église protestante, et on en est fiers, où finalement les synodes sont faits de personnes élues par l'Assemblée, les pasteurs sont choisis par l'Assemblée elle-même élue par les fidèles, et le président du Conseil national est élu de personnes élues, de personnes élues, de personnes élues par vous. Eh bien, ce système démocratique merveilleux est très très bien, mais il y a un élément essentiel dans les deux cas d'élection, là, apôtres et diacres, c'est la prière. Ils sont en prière. Et je me permettrai d'insister là-dessus, et même sur notre mode de fonctionnement. Certes, il y a un fonctionnement démocratique, mais nous ne sommes pas une association laïque qui élit son comité directeur. L'essentiel, c'est effectivement d'associer Dieu à notre démarche. Et de dire notre démarche démocratique n'a de sens que si elle est nourrie par la prière. Et le risque, même d'un conseil presbytéral, c'est finalement de gérer une association comme on gérerait une association de 1901 d'autres choses, en gérant le budget, la qualité de la peinture, le revêtement du sol, l'organisation, le calendrier et tout ça. Mais attention, l'essentiel de notre œuvre, c'est le Seigneur. Et nous sommes là, dans la prière, pour Dieu et pour le service de Dieu, et pas pour une association laïque. Et donc, voilà, je vous disais, cette histoire de tirage au sort, qui est idiote, mais bon, d'y associer Dieu, finalement, c'est quand même une très belle chose. N'oubliez pas, en toute chose, de toujours associer cette dimension spirituelle à notre action. Et je trouve essentiel que notre assemblée générale soit justement à l'issue d'un culte, et pas, on aurait pu le faire un jeudi soir, je ne sais quoi. Mais cela dit, bon, je suis favorable à la prière, mais la prière ne garantit pas tout, hein, parce que Jésus lui-même, quand il choisit ses 12 apôtres dans l'Évangile, on nous dit qu'avant de choisir ses apôtres, il a passé la nuit en prière dans la montagne. Il redescend de sa montagne, il choisit ses 12 apôtres, et patatras, il choisit Judas. Bon, le choix était quand même pas formidable. Bon, c'était quand même un peu calamiteux, cette histoire. Et donc, la prière ne garantit pas tout, évidemment. Mais en même temps, même si la prière n'est pas une ligne directe avec Dieu, néanmoins, je crois que sans la prière et sans la présence de Dieu, nous risquerions de perdre notre âme, de perdre notre raison d'être et finalement de périr, et notre activité ne pourrait effectivement que disparaître. Alors ensuite, regardons d'abord les deux raisons de cette élection, les deux raisons qu'évoque Pierre en citant deux psaumes. Deux citations bibliques, il dit d'abord que le mal ne demeure pas chez vous, donc il faut le retirer, Judas, et d'autre part, il faut le remplacer, il ne faut pas laisser la place vacante, il faut qu'il y ait quelqu'un. Ces deux programmes me semblent deux belles choses que nous pouvons appliquer à notre propre vie, à chacun, je dirais. Le premier, c'est de dire, veillez à ce que le mal n'ait pas de place de demeure chez vous. Ben oui, je pense que déjà, c'est bien d'être croyant, d'être chrétien ou d'être engagé, mais on peut déjà commencer par faire un peu le ménage chez soi et de se dire, il y a une exigence, j'allais dire morale, pourquoi pas, de se dire, veillez à ce que le mal n'habite pas trop chez vous quand même. C'est ce que dit Jésus d'ailleurs dans sa prière sacerdotale, vous savez, dans Jean, quand il prie pour ses disciples et il dit « Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mal. » Donc ça nous appartient avec l'aide de Dieu. Le deuxième point, c'est de dire « Il ne faut pas laisser la place vacante. » Et ça veut dire que peut-être aussi dans notre engagement de chrétien, il ne faut pas laisser la place au rien. Il faut s'impliquer, traquer le vide. Il faut pourchasser le rien faire, l'attentisme, et pourchasser aussi les « on le fera plus tard si j'ai le temps ». Non, il ne faut pas laisser de vide. Il faut remplir son action, sa vie, du service du Seigneur. Si on laisse le temps vide, il se remplit par du n'importe quoi. Et donc, ne laissez pas la place du mal vide, remplissez-la par du bien et du service. Et tout ça, pourquoi faire? Bien là encore, le texte d'Acte 1 nous le dit. Il dit pour la diaconia. Diaconia, c'est un terme grec qui veut dire le service. Donc voilà le mot. Nous sommes élus, enfin, ou choisis par Dieu, pas forcément comme conseillers, mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes nommés pour le service. Et encore plus, là, le rôle d'apôtre, c'est quand même une vraie gloire d'être apôtre. Enfin, tout le monde n'est pas apôtre, il y en a avec 12. Être apôtre ou être conseiller presbytéral ou être pasteur ou être diacre, ce que vous voulez, on ne le fait pas pour l'honneur, on ne le fait pas pour la gloire ou pour la satisfaction personnelle, mais pour une seule chose, c'est le service. Voilà. Et je sais, on me l'a reproché, je dis souvent que le seul sens de notre vie, c'est le service. Eh bien, je le maintiens et je le crois. Et c'est ce que nous redit encore une fois ce texte. Et donc, nous sommes là pour le service et pas pour la gloire personnelle. Et d'ailleurs, ce Matthias, qui sera élu finalement, il est étonnant parce que quelle gloire va-t-il en tirer? Aucune. Est-ce qu'on va parler de lui après? Non, on n'en parlera plus jamais. Matthias va totalement disparaître des radars. Ce qui fait que certains disent, en fait, ça a été un mauvais choix. Ils ont choisi Matthias, mais il était tout simplement nul. Eh bien, je ne crois pas. Personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas que Matthias ait été insignifiant, mais que justement ce choix de Matthias, qui n'aura pas les premiers rôles et qui ne sera pas sous la lumière des projecteurs, sous la gloire de ceux qui vont créer l'Église et faire des choses remarquables, ce Matthias a justement montré qu'on pouvait être apôtre et être un serviteur, j'allais dire presque anonyme, et que le véritable apôtre n'a pas besoin de notoriété, pas besoin de gloire, pas besoin d'éclat, et qu'il n'est pas moindre pour autant. Matthias va faire son boulot d'apôtre, là où il est, sans doute discrètement, mais néanmoins, le serviteur n'est pas forcément celui qui fait le plus de bruit. Et donc, je pense que c'est tout à fait, j'allais dire, voulu par le Seigneur que Matthias n'ait pas ce rôle important. Même son nom est bizarre, parce que Matthias, c'est pas vraiment un nom hébreu, en fait, c'est un diminutif. Le vrai nom, c'est Matathias, voilà. Ça veut dire « don de Dieu ». Et Matthias, c'est un diminutif. Donc voilà un type, on l'appelle déjà par un diminutif. Donc dès le début, c'est quelqu'un de réduit à peu de choses. Et en même temps, son nom, c'est « don de Dieu ». Et le don de Dieu, justement, est-ce qu'il est insignifiant ? Non. Mais parfois, les dons de Dieu ne font pas le plus grand bruit. Il y a des dons de Dieu qui sont extrêmement intimes, discrets, invisibles, et peut-être que parfois ces dons les moins visibles, les moins spectaculaires, les moins tonitruants, peuvent être aussi les plus précieux. Comme c'est dit d'ailleurs dans, je crois que c'est Paul qui dit ça, Dieu a choisi les choses humbles de ce monde pour confondre les fortes. Donc voilà l'exemple de Matthias qui me plaît par justement sa discrétion. Et je ne pense pas que c'ait été un mauvais choix. Au contraire, c'est une vraie leçon qu'on nous donne. On nous présente Pierre, l'un des 12, qui prend l'ascendant, qui brille sur les feux de la rampe, et on nous dit, mais Matthias est tout aussi apôtre que Pierre, et pourtant lui n'a pas brillé. Mais néanmoins, les choses, c'est pas que les choses brillantes qui sont importantes dans la vie, et ce ne sont pas que les personnages les plus médiatiques qui comptent le plus dans l'existence, ou dans le monde, ou dans la société. Et d'ailleurs, ce Matthias, je le trouve éminemment sympathique, parce que, vous savez, dans le texte, Pierre dit, il faut que ce soit quelqu'un qui ait suivi le Christ, et qui ait été parmi nous pendant 3 ans, du baptême de Jésus jusqu'à l'ascension. Donc ça veut dire que Matthias, pendant 3 ans, il a suivi le Christ, il a marché avec eux, il a tout fait avec eux, tout le temps, tout suivi, et il n'a jamais rien demandé, jamais rien réclamé. Il s'est jamais mis en avant. Il a suivi le Christ avec une totale humilité. Et il s'est contenté d'être à l'écoute du Christ, d'être avec les apôtres. Simplement, le jour où on a besoin de lui, il dit « Ok, j'y vais ». Ça, c'est formidable. Franchement, c'est formidable. Et j'aime beaucoup ce Matthias que je trouve absolument exemplaire. Et donc j'aime ce chrétien discret qui pourrait sembler être un chrétien de deuxième zone, parce que, évidemment, même chacun de nous, parfois on peut se dire, mais moi aussi je me sens un peu secondaire, soit vous comme paroissien ou comme conseiller ou comme diacre, ou même moi comme pasteur, j'ai moins de succès que Billy Graham, ou je sais pas quel grand prédicateur, ou de certaines méga-churches qui font 1000 personnes tous les dimanches matins en région parisienne, là on est 80, 100, 150, je sais pas, eh bien je suis un pasteur secondaire. Et le fait qu'il y ait justement dans la Bible ce personnage qui pourrait sembler secondaire, mais qui a une telle importance, c'est rassurant. Et de se dire, chacun de nous, chacun de vous, vous n'êtes pas des personnages secondaires condamnés à être relégués dans disant « c'est une erreur de l'histoire, c'est un chrétien qui n'aurait pas dû l'être ». Non, chacun, même s'il se croit secondaire, peut avoir ce rôle absolument essentiel et fondamental et être quelque chose d'essentiel. L'essentiel, c'est d'être épiscopos, dit le texte, quelqu'un qui soit, c'est-à-dire visiteur. Et d'après la citation du psaume, avec ces deux fonctions que je vous ai évoquées tout à l'heure, d'être diakonos et apostolos, c'est-à-dire diacre et apôtre. C'est les deux termes utilisés. Diacre, ça veut dire serviteur, en grec, et apostelos, apostolo, apostolos, ça veut dire envoyé. Voilà simplement notre vocation, d'être serviteur et envoyé. Et puis, c'est un beau message, je vous l'ai dit, l'importance du travail, ce n'est pas le bruit qu'on fait, mais la valorisation du travail dans l'ombre, dans la fidélité, dans l'humilité, dans l'engagement et dans la disponibilité. Alors, l'autre candidat, Barsabas, Joseph, appelé Barsabas, que les apôtres appelaient Justus, nous dit le texte. Est-ce qu'il aurait été un meilleur candidat? C'est une bonne question. En fait, Barsabas, les manuscrits les plus anciens disent qu'il s'appelait pas Barsabas, mais Barnabas, ce qui change beaucoup de choses, parce que si c'est Barnabas, ce serait le même que celui qu'on cite en Actes 4:36, où on parle de Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, c'est bien le même, ce qui signifie fils d'exhortation, etc. Et ce Barnabas sera un des plus importants collaborateurs de Paul. Matthias n'est cité que deux fois dans Acte 1, le texte que je vous ai lu, Barnabas, mais il est cité partout, dans les Actes, dans les Épîtres, par Paul, par les disciples. Barnabas, ça va être un type d'une importance colossale, si vous voulez, comme un des grands collaborateurs de Paul, comme un des fondateurs de l'Église. Il va faire beaucoup de choses. Et Barnabas n'aura pas été nommé apôtre. Alors peut-être, je ne vais pas revenir, je vous disais, finalement, ils ont fait le choix de ne pas choisir celui qui était le plus brillant, mais ils ont choisi quelqu'un de plus discret. Ils ont bien fait, à mon avis, et je pense que c'est une très bonne idée. Mais ça veut dire autre chose. C'est que Barnabas, bien que n'ayant pas été nommé apôtre, a été quelqu'un d'absolument essentiel pour l'Église. Ça aussi, ça m'apprend quelque chose. C'est que pour nous aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'être conseiller presbytéral, diacre ou pasteur, pour être un élément essentiel de l'Église. On peut faire tellement de choses sans avoir une fonction officielle. Et donc, ce n'est pas la fonction qui fait l'efficacité non plus. On peut être quelqu'un d'extraordinaire, d'exceptionnel, sans fonction. Et Paul, qui va essayer de dire « moi, je suis quand même un peu apôtre », dans les Actes, jamais. Jamais Paul n'est désigné comme apôtre dans les Actes. Dans les Actes des apôtres. Paul, quel titre il avait? Aucun. C'est quand même lui qui a créé l'Église. Et donc ça remet aussi les choses à leur juste place. Il faut des fonctions officielles, mais ce n'est pas non plus la fonction qui fait tout, et ce n'est pas la peine d'avoir une mission officielle pour être efficace et utile pour l'Église. Alors vous disais-je, les conditions pour être apôtre, ça m'intéresse quand même parce que finalement nous sommes tous un peu invités à être apôtres. Les conditions données par acte, c'est de dire il faut avoir accompagné Jésus depuis son baptême jusqu'à son élévation, d'avoir marché avec les compagnons du Christ et d'être témoin de sa résurrection. En passant, vous verrez qu'on se fiche complètement de la naissance de Jésus, il peut être né comme vous voulez, ça n'a aucune importance pour les actes. Et simplement, je garderai ça, voici les prérequis pour être un bon conseiller presbytéral ou juste un bon chrétien. D'abord, avoir accompagné Jésus tous les jours. J'aime cette idée d'être familier de toute l'histoire de Jésus et de marcher tous les jours avec lui. Ça, c'est une belle chose. Cheminer avec lui, vivre avec l'Évangile quotidiennement et fidèlement. Les prêtres de l'Église romaine ont l'obligation de dire leur bréviaire tous les jours. On m'a dit parfois, est-ce que les pasteurs ont cette obligation? Réponse non, il n'y a pas d'obligation chez nous. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas obligatoire que ça n'est pas bien. Et donc je dirais oui, heureux celui qui sait associer le Christ Jésus tous les jours de sa vie. Et qui sait également fréquenter toute la vie de Jésus en connaissant l'Évangile, en fréquentant l'Évangile, en marchant dans l'Évangile avec les pas de Jésus, et tout cela pour arriver d'être familier avec toute cette vie du Christ et de rester familier avec cela, de maintenir cette proximité avec le Christ. Et ensuite, on dit que le but de ça, c'est d'être témoin de la résurrection. Là, j'ai pas le temps, vous reprendrez ma prédication d'il y a 15 jours ou 3 semaines, à propos de Pâques, où j'explique ce que cela veut dire, ou ce que cela peut vouloir dire. Le sens de la résurrection est compliqué, mais en tout cas, c'est le, 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 Bon, ça n'entend pas forcément l'idée d'un corps qui se relève, qui enlève les bandelettes, d'une résurrection corporelle. C'est beaucoup plus compliqué et passionnant que ça, mais en tout cas, c'est essentiel. Quant à Judas, on dit qu'il a quitté sa place. C'est les mots que disent le texte d'Acte 1. Pour aller dans la place qu'est la sienne. La place qu'est la sienne, c'est dit quelques versets au-dessus, puisqu'on dit dans le texte que Judas, avec l'argent, les 100 deniers là, qu'il a vendu, pour lesquels il a vendu Jésus, il s'est acheté un champ qu'on a appelé Akeldamar, le domaine du sang. Alors voilà l'option. Soit on est dans la place de Judas, dans le domaine du sang, soit on est dans la place des apôtres, le domaine de l'esprit. Et effectivement, le sang, ça peut être le sang de la vie biologique, et l'esprit, c'est le domaine du ressuscité qui n'est pas du domaine du biologique, puisque le Christ ressuscité ne saigne pas, si vous voulez, hein, il passe à travers les murs. Bon. Et donc, voilà, soit on est dans le camp de Judas qui choisit le biologique, soit dans le camp des apôtres qui choisit le spirituel et l'invisible et l'esprit. Soit on choisit de servir le temporel, soit on choisit de servir l'éternel, l'égoïsme, le pouvoir ou le don et la générosité et l'altruisme. Et les apôtres, vous disais-je, sont nommés simplement pour une chose, c'est pour la diaconia et l'apostolie, le service et l'envoi. Et là, dans le texte, c'est intéressant aussi d'un point de vue ecclésiologique, c'est que dans le texte, si vous le relisez, acte 1, le service et l'apostolat sont vus comme une réalité unique à laquelle chacun prend part. C'est très important parce que, petite leçon d'ecclésiologie réformée, dans la théologie réformée, la théologie des ministères, il y a deux ministères individuels, pasteur et professeur de théologie, et deux ministères collectifs qui sont le diaconat, c'est-à-dire l'entraide, et le conseil presbytéral. Et donc, le diaconat est un ministère collectif. Le conseil presbytéral est un ministère, un seul ministère collectif. Et devenant conseiller, on participe au ministère du conseil du diaconat ou presbytéral. Eh bien, c'est pareil là. On dit que le diaconat et l'apostolie est cité au singulier, je vous cite, « afin qu'il prenne sa place dans ce service et cet apostolat que Judas a quitté ». Et donc le service que nous sommes invités à avoir, diacre, conseiller ou non, est un service collectif avec d'autres, et la base c'est de collaborer, servir et se sentir envoyé dans un monde pour témoigner. Et bien voilà tout ce que nous enseigne ce petit Matthias qui, vous voyez, a beaucoup plus à nous dire qu'on ne pourrait penser, parce qu'à la fois il nous rappelle l'essentiel du sens de ce que acceptent ceux qui veulent une charge officielle dans l'Église. Il nous rappelle aussi à nous tous, que nous soyons apôtres, pasteurs, conseillers ou non, que l'essentiel c'est d'accepter de se sentir envoyé dans ce monde et au service. Et voilà, tiens, quelle pourrait être le motto, la devise, le mot d'ordre de la vie du chrétien. Envoyer pour servir. Envoyer pour servir. Voilà. Finalement, je trouve ça absolument remarquable et c'est le sens de ce texte de l'élection de Matthias. Envoyer pour servir. Voilà ce qui devrait être la devise de tout disciple du Christ et de toute notre mission, notre action dans l'Église, de notre vocation de chrétien en général. Et tout cela avec l'aide précieuse et la présence de Dieu qui ne lâche pas une minute de notre vie, de sa grâce. Amen.